Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Micro Rebelle Hebdo. Micro Rebelle Hebdo diffusée simultanément sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr et chez nos amis de PFM 99.9. Alors ce sera la dernière émission de Micro Rebelle Hebdo avant la coupure de cet été 2017. On se reverra à la rentrée, donc fin août, début septembre, pour la reprise de nos émissions. Alors Micro Rebelle, c'est la radio des luttes et des alternatives sociales et politiques, notamment dans le bassin minier, pas seulement, mais enfin notamment dans le bassin minier quand même. Et à l'occasion de ce Micro Rebelle Hebdo, on ne change pas notre formule habituelle. On va évoquer l'agenda des événements à venir. Et ensuite se pencher sur quelques analyses et reportages liés à l'actualité, le tout entrecoupé de musique libre. Vous savez que sur Micro Rebelle, on ne diffuse que de la musique libre, de la musique dont la licence permet la libre diffusion, la libre réinterprétation d'une manière générale. Alors sans attendre, place maintenant à notre agenda. Je vous retrouve tout à l'heure. Dans notre agenda, c'est le mercredi 5 juillet, c'est le café du mercredi au planning familial. Alors c'est tous les mercredis, donc notamment mercredi 5 juillet, de 8h30 à 9h30, c'est au local du planning familial du Pas-de-Calais, au 45 rue François Gauthier, au premier étage à Lens. Et donc c'est l'occasion de se rencontrer, de discuter, de prendre un café, de prendre du temps pour soi. Donc n'hésitez pas, venez papoter autour d'un petit déjeuner avec les bénévoles, les militants et militantes et les salariés du planning familial du Pas-de-Calais, demain mercredi 5 juillet de 8h30 à 9h30. Le jeudi 6 juillet, c'est un moment de mobilisation, on l'espère, importante. Une mobilisation pour Henri. Alors Henri Lawo-Sagno, c'est un jeune Guinéen. Il est au lycée Henri Darras de Liévin et donc il est menacé d'expulsion. Il passe en audience au tribunal administratif de Lille pour faire appel de la décision de l'expulser. Alors le tribunal administratif de Lille, c'est au 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire et le rassemblement, c'est jeudi 6 juillet à 9h30 devant ce tribunal puisque l'audience est prévue à 9h45. Alors l'audience, elle est publique et il est important que l'administration sache qu'Henri n'est pas isolé. En général, lors d'une expulsion, on compte la plupart du temps sur le fait que la personne expulsée est toute seule et n'a pas de soutien. Donc là, l'idée, c'est que les lycéens et les lycéennes de Henri Darras se mobilisent, mais aussi toutes celles et ceux qui sont attachés à tout simplement l'aspect humanitaire, sans parler de la libre circulation des personnes. Alors la demande d'asile d'Henri a été refusée. Il n'a plus aucune famille en Guinée, donc ça n'a aucun sens qu'il soit renvoyé en Guinée. Il est élève au lycée professionnel Henri Darras, en bac pro. Alors depuis son arrivée en 2013, ça fait 4 ans, il n'a jamais redoublé. Il a été pris en charge par la direction de l'enfance, mais là, il est majeur, 18 ans, et donc il ne peut plus bénéficier de cette protection, d'où l'importance de cette mobilisation. Je vous en rappelle les aspects pratiques. C'est le jeudi 6 juillet, l'audience est à 9h45, et on se rassemble devant le tribunal à 9h30, le tribunal administratif de Lille, 5 rue Geoffroy-Saint-Hilaire. Donc Henri doit rester avec nous. Toujours le 6 juillet, mais en soirée, et c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur à Micro Rebelle, puisqu'il s'agit de notre Assemblée Générale Annuelle, l'Assemblée Générale Annuelle de Micro Rebelle, c'est la première. Micro Rebelle est une jeune web radio associative. Donc on a le plaisir de vous convier à notre Assemblée Générale ce jeudi 6 juillet à 18h. C'est à notre siège, à nos studios, au 197 bis rue Émile Zola à Liévin. Tous nos auditrices, nos auditeurs, nos amis, ceux qui ont participé à nos émissions sont cordialement invités, donc de 18h à 20h. Et à 20h, on terminera ensemble par un moment convivial autour du barbecue. Vous verrez qu'à Micro Rebelle, on a un chouette bout de terrain qui nous permet des initiatives publiques et populaires. C'est tout à fait chouette pour nous. On est très contents de vous montrer ce lieu et ses possibilités. Alors, lors de l'Assemblée Générale, on va discuter du sens et de la place pour une web radio d'information tournée vers les luttes sociales, politiques, économiques, féministes, antiracistes, écologiques. C'est un peu le sens de ce que Micro Rebelle met en avant. On va échanger autour du projet pour Micro Rebelle, projet de territoire, avec les gens, les associations, les collectifs du territoire. Bien sûr, on va revenir sur l'activité de Microrebelle en 2016. Et puis les perspectives, hein, on a beaucoup de chouettes projets collectifs, des projets transformateurs, des projets émancipateurs autour de l'information et du territoire. Donc nos projets pour 2017-2018. Donc n'hésitez pas à réserver votre soirée, hein, c'est très bientôt maintenant, c'est jeudi soir à 18h. On va vraiment démarrer à 18h, puisqu'on a 2 heures d'assemblée générale avant de se tourner vers le barbecue. Vous pourrez avoir d'autres informations, pardon, sur notre site micro-rebelle.fr. Eh bien, on termine cet agenda de nouveau avec nos amis du planning familial du Pas-de-Calais. Et donc là, ça se passe le jeudi 13 juillet. C'est toute la journée de 11h30 à 17h. C'est dans le quartier de la Grande Résidence à Lens. Et c'est une kermesse populaire et solidaire, hein, qui est notamment organisée par Culture et Liberté et le planning familial du Pas-de-Calais. Donc, rendez-vous, hein, le 13 juillet au pied du pavillon Beethoven, donc à la Grande Résidence de Lens. Le repas est prévu, il y aura des activités de type porteur de parole, des jeux, et tout cela autour des questions de solidarité et d'égalité. Alors, donc, le temps sera ensoleillé, hein, on croise les doigts pour ça, et donc une belle après-midi solidaire dans une convivialité joyeuse, un barbecue pour une belle après-midi festive. Donc, le 13 juillet, avec le planning familial du Pas-de-Calais et Culture et Liberté. Alors, c'était donc l'agenda social et politique, hein, bon, notamment dans le bassin minier, là où est implanté Micro-Rebelle. On va s'interrompre pour une petite pause musicale, hein. Vous êtes toujours sur Micro-Rebelle Hebdo, à la fois sur micro-rebelle.fr et sur PFM 99.9. Donc une petite pause musicale, hein. Micro-Rebelle ne diffuse que de la musique libre, hein, de la musique dont les créateurs ont souhaité mettre à disposition pour tous et toutes, hein, librement. Et aujourd'hui, on va passer quelques extraits d'un concert en live. Donc ça se passe aux Tanneries. Les Tanneries, c'est un centre autogéré à Dijon. C'est en quelque sorte comme le LAG, hein, le lieu autogéré du bassin minier à Liévin. Mais là, c'est un centre autogéré bien plus ancien et bien plus important que le LAG, hein. En quelque sorte, les Tanneries, c'est le grand frère, hein, ou la grande sœur, hein, du LAG, du lieu autogéré de Liévin. Et donc, fin décembre 2016, se tenait un concert avec notamment les frères Porteron. Les frères Porteron, c'est eux qui sont connus sous le nom de Poil Records. Donc, ils sont assez connus dans le monde de la musique libre. Ils ont notamment joué avec des groupes macédoniens et aux Tanneries sur scène. Donc ils sont accompagnés d'un nouveau batteur et ils jouent avec Assehareux, qui sont des musiciens touareg. On a donc un petit mélange assez sympathique, hein. C'est de la musique libre, sans frontières ni barrières musicales. Alors ça donne bien envie de danser avec le public, et notamment le public qui a eu la chance d'assister à cette soirée aux Tanneries. On écoute un premier morceau. Thank you. bien, après cette sympathique coupure musicale, on va revenir sur l'actualité récente. Et on va commencer par la semaine dernière hein, à la CAL, la communauté d'agglomération de Lens-Liévin. Donc il se tenait un conseil communautaire hein, et c'est le moment qu'avaient choisi des militantes et des militants du collectif Ouyouyouy 5962 pour distribuer des tracts d'information aux élus qui allaient assister à ce conseil communautaire de l'agglomération de Lens-Liévin. Donc il y avait une vingtaine de militantes et de militants. L'idée de cette distribution de tracts, c'est il y a eu un changement de gouvernement, ça n'aura échappé à personne, avec un nouveau ministre, Nicolas Hulot. Et donc les enjeux, c'est est-ce qu'on va poursuivre les opérations d'exploration et de fracturation du sous-sol, comme le souhaitent les multinationales de l'énergie, ou au contraire, est-ce qu'on va arrêter ? Donc c'est une bagarre qui n'est pas facile, hein. Les enjeux financiers, on s'en doute, pour ces multinationales sont importants. Et donc du côté des élus, on sait qu'il y a des opérations d'exploration et de fracturation qui sont envisagées à Dijon et à Avion. Dans un premier temps, il y avait un certain nombre d'élus qui étaient favorables, et aujourd'hui on constate une évolution hein, des élus, une évolution positive hein, vers l'abandon de l'exploitation du gaz de couche. Donc c'est un peu tout le sens de la distribution d'informations, de tracts, hein, d'échanges aussi, hein, d'échanges avec les élus qui se présentaient, lors de ce conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, la CAL. Et on va écouter deux militantes. Hein, on est devant la communauté d'agglomération, on est juste avant le conseil communautaire. Et ces deux militantes, hein, Blanche et Christine, nous exposent un petit peu pourquoi elles sont là ce soir sur la question des gaz de couche. Bien, alors nous sommes juste devant le conseil communautaire de l'agglomération de Lens-Liévin. Le conseil communautaire est prévu à 18h30. Là, on est juste un petit peu avant et je suis avec différents manifestantes et manifestants, et notamment avec Blanche. Alors Blanche, est-ce que tu peux nous préciser, pour les auditrices et les auditeurs de Micro Rebelle, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce qui se prépare ce soir-là ?
Alors, qu'est-ce qui se prépare ce soir ? C'est, je pense, quelque chose qui se prépare depuis longtemps et qui est notre combat contre le gaz de couche.
Alors, est-ce que tu peux resituer les enjeux de cette question du gaz de couche ? Autrement dit, pourquoi est-ce qu'il y a cette mobilisation ce soir devant l'agglomération de Lens-Liévin ?
Oui, parce que ça concerne d'abord le bassin minier, des villes comme Avion, et que ça risque d'entraîner pas mal de problèmes de pollution, de fracturation dans le sol, pour un bénéfice qui sera nul.
Bien, je te remercie. Alors, je vois aussi qu'il y a des personnes qui ont des panneaux sur les compteurs Linky. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Alors là, c'est Pascal qui les a préparés, c'est pas moi. Et moi, Linky, j'avoue que j'y ai mis le nez parce que j'ai reçu, figure-toi, de mon voisin de réunion à la commission d'orientation de l'agriculture. C'est un professeur du technique. Il m'a donné une lettre à lire sur Linky, mais moi j'avoue que mes compétences dans le domaine sont dépassées hein, et qu'il faudrait quelqu'un pour m'expliquer.
Donc toi tu es là avant tout sur la question de l'extraction des gaz de couche.
Oui. Mais c'est vrai que Linky, on en parle quand même depuis déjà pas mal de temps. Hein.
Très bien, eh bien, je te remercie Blanche. Alors Christine, donc on est juste devant la salle du conseil d'agglomération. Le conseil va démarrer dans 5-6 minutes. Là, il y a de nombreux élus qui entrent. Alors qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'il y a cette mobilisation ce soir ?
Parce qu'on voudrait leur parler du gaz de couche. D'ailleurs, je suis très étonnée parce qu'un élu sur deux nous dit qu'il n'est pas du tout au courant du problème. Et ça fait quand même quelques années à la fois qu'on lutte sur le gaz de couche dans la région. Et qu'il y a eu des enquêtes publiques, qu'il y a eu un tas de choses. Donc c'est quand même étonnant qu'ils ne soient pas du tout au courant de ce problème.
Alors on va reparler des élus dans quelques instants si tu veux bien. Là peut-être, est-ce que tu peux commencer par nous résumer la problématique et les enjeux de cette question du gaz de couche ?
Alors, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a deux sortes de gaz. Le gaz de mine, qui est exploité par Gaz au Nord et qu'il faut vraiment exploiter celui-là, puisqu'il permet de mettre en sécurité le bassin minier. Sinon, ça ferait augmenter la pression dans le sol et ça irait sortir un peu partout à l'occasion. Et le gaz de couche, qui est enfoui profondément dans les couches de charbon et qui, celui-là, n'a pas vocation à aller alimenter l'effet de serre si on n'y touche pas. Pour le récupérer, celui-là, il faut faire des forages. Au minimum, un forage vertical et des forages déviés. En Lorraine, ils viennent de faire un forage dévié sur plus de 3500 mètres, dans un petit village qui s'appelle Tritlin. Et force est de constater que ça ne marche pas. Ils n'ont pas réussi à certifier de ressources. Le seul puits qui leur a permis de certifier des ressources, c'est celui qui a été fracturé. C'était en 2008, donc ils en avaient parfaitement le droit, puisque la loi d'interdiction date de 2011.
Alors, ce qu'on connaît majoritairement en France, par les médias, c'est le gaz de schiste. Quelle est la différence entre les deux ? C'est la même problématique ? C'est différent ?
C'est un peu différent quand même. Le gaz de schiste, c'est déjà dans les schistes, entre 4 et 6 000 mètres. Donc, ça nécessite des pressions énormes et énormément d'eau. Le gaz de couche, c'est un petit peu plus haut, entre 1000 et 2000 mètres. Et c'est dans une roche fragile. Le charbon, c'est une roche friable, fragile. Et donc, ça nécessite des pressions un peu moins grandes. C'est un peu pervers parce que pour le gaz de schiste, comme la fracturation hydraulique est interdite par la loi, ils ne peuvent tout simplement pas faire d'exploration. Or, pour le charbon, comme ce n'est pas exactement les mêmes pressions, ils appellent ça le massage de la roche ou la stimulation du massif rocheux. C'est écrit dans l'arrêté préfectoral de Divion.
C'est poétique, hein ?
C'est poétique, c'est presque sensuel. C'est écrit dans l'arrêté préfectoral de Divion. Et du coup, comme ils n'utilisent pas le terme de fracturation hydraulique, ils ont parfaitement le droit de le faire.
Parce que justement, est-ce que tu peux nous résumer ce que dit la loi, justement, sur cette question de fracturation ? Ce que dit la loi et comment ça se présente aujourd'hui dans le bassin minier, cette question-là ?
Ben, on n'en sait trop rien, en fait. Ce que dit la loi, c'est une interdiction de la fracturation hydraulique. Mais le problème, c'est que la fracturation hydraulique n'est pas définie dans la loi. C'est un terme technique, ce n'est pas un terme juridique. Et donc, la fracturation hydraulique n'est pas définie. Il suffit d'employer un autre terme et on aura le droit de le faire. Ce qui va se passer dans le bassin minier si d'aventure les gaz de couche sont exploités.
Très bien, je te remercie. Alors, justement, les militantes et les militants qui sont là, qui distribuent des tracts d'information aux élus, leurs arguments, qu'est-ce que c'est ? Autrement dit, pourquoi il y a cette mobilisation ? Pourquoi est-ce que vous refusez cette extraction du gaz de couche ?
Parce que ça pourrait... Déjà, c'est pas forcément rentable pour la région. Parce qu'en Lorraine, déjà, ils ne réussissent pas à avoir quelque chose d'économiquement viable. Et pourtant, les couches sont beaucoup plus épaisses et beaucoup plus plates. Chez nous, c'est des couches très fines et très plissées. Donc on ne voit pas bien déjà comment ils vont faire s'ils n'utilisent pas la fracturation. Donc ça, c'est une première interrogation. Et il y a quelques mois, il y avait un député australien qui, pour protester contre l'exploration du gaz de couche, comme chez nous, et pas du gaz de schiste, il avait enflammé une rivière. Parce que la fracturation, les fractures sont un peu aléatoires. Et après, le gaz va remonter un peu par toutes les fissures. Alors le temps de l'exploration... Encore, comme il y a une dépression pour attirer le gaz de couche, il va bien remonter là où on le lui dit. Mais quand l'exploration cesse, eh bien, il va remonter un peu partout. Et ça remontait par grosses bulles dans une rivière et il est allé carrément l'enflammer. C'est pour dire que les problèmes environnementaux ne sont pas du tout négligeables. Et nous, ce qu'on craint par-dessus tout dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est les mouvements de terrain. Puisqu'on est dans un gruyère, il y a 100 000 km de galeries dans le Nord-Pas-de-Calais. Et là-dedans, nous, on va aller faire des forages alors qu'il y a déjà des affaissements de terrain. Et donc voilà, on craint beaucoup les affaissements de terrain, les mouvements de terrain en général.
Très bien. Alors, le collectif se mobilise maintenant depuis de nombreux mois. Il y a une belle organisation.
Depuis 4 ans.
Depuis 4 ans. Alors, ça fait beaucoup de rencontres, j'imagine beaucoup d'initiatives. Comment est-ce que la question elle évolue ? Comment est-ce qu'elle est perçue parmi la population, parmi les habitantes et les habitants ? Et puis quel est le sentiment, d'une manière générale ou d'une manière nuancée d'ailleurs ?
Comment évolue la question? Je ne sais pas très bien, parce qu'en fait, c'est un problème technique, c'est un problème un petit peu compliqué. Les gens mélangent gaz de couche, gaz de mine. D'ailleurs, les journalistes les y aident bien en parlant de gaz de houille, qui est l'ensemble des deux. Et donc, comment évolue la question sur le point de la connaissance des habitants? Ben, on ne sait pas très bien, en fait. C'est vrai qu'on est comme... on a fait 42 réunions publiques, donc on a quand même déjà touché beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui restent inscrits sur les listes, qui ne sont pas forcément toujours en train de militer avec nous, mais on sent quand même une mobilisation assez intéressante de la population.
Et donc tu disais que les tracts qui étaient distribués aux élus, d'une certaine manière, laissaient entendre que les élus avaient une méconnaissance du problème. Alors, parmi les rencontres que tu as pu faire, toi et le collectif, c'est quelque chose qui est avéré, ça, les élus méconnaissent
Complètement. La première fois qu'on est allé rencontrer M. Péricot à l'époque, il nous avait dit...
M. Péricot, c'est un conseiller régional.
C'est un conseiller régional.
Un ancien conseiller régional.
Un ancien conseiller régional. Il nous avait dit, mais Mme Poilly, dans le Nord, il y a 360 000 chômeurs. Et donc, on va accepter parce que ça crée de l'emploi. Or, en Lorraine, ça n'a pas créé d'emploi. Ça a créé juste quelques emplois très spécialisé, plus un emploi de gardien. Donc un forage, on estime que c'est à peu près un emploi. Après, le temps du forage, il y a une société qui vient avec ses employés, donc ça ne crée absolument pas d'emploi local.
Très bien, alors une dernière question. Il y a un calendrier qui est prévu, calendrier de forage, d'exploration, d'extraction, d'un côté, puis de l'autre côté, il y a un calendrier de mobilisation aussi.
Malheureusement, le calendrier de l'entreprise, on ne le connaît pas bien parce qu'on est un peu tributaire de ce qui se passe en Lorraine. Le temps qu'ils n'ont pas réussi à faire de forage exploitable en Lorraine, à mon avis, ils ne viendront pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Ils ne vont pas entreprendre les deux en parallèle pour une question d'argent, tout simplement. Un forage, c'est 1 million d'euros. L'introduction en bourse n'a pas donné ce qu'ils escomptaient. Ils escomptaient que les gens allaient se précipiter sur l'action, il n'en a rien été du tout. Et donc, pour des questions financières, on méconnaît complètement le calendrier, parce que je pense qu'eux-mêmes ne le connaissent pas bien non plus.
Alors donc, nouveau président de la République, nouveau gouvernement, on a Nicolas Hulot qui est maintenant ministre. C'est bien, ça interroge, il se passe quelque chose de ce côté-là?
Ah, nous avons écrit à M. Hulot une lettre pour lui demander de nous écouter. C'est un peu mal parti. On voit bien, l'une des premières décisions de M. Hulot a été de mettre en avant l'interdiction des gaz de couche et le fait qu'il n'accorderait plus de permis, de nouveaux permis pour la recherche d'hydrocarbures.
C'est plutôt positif quand même.
C'est plutôt positif, sauf qu'il en reste 65 en cours de validité et 130 demandes en cours qui ne sont pas concernées par l'interdiction. Donc oui, certes, c'est bien d'interdire, mais ces 130 plus 65 là suffiront largement à l'exploitation de quelques forages en France.
Et donc c'est tout le sens des mobilisations du collectif.
Exactement, c'est tout le sens des mobilisations du collectif.
Avant de poursuivre notre rubrique actualité, on fait de nouveau une petite pause musicale. Hein. C'est toujours de la musique libre. On est toujours aux Tanneries, hein, le centre autogéré de Dijon, pour un concert live fin 2016. On est avec les frères Portron et les musiciens Touareg. On les écoute et je vous retrouve tout juste après.
Yeah.
On poursuit nos actualités de la semaine, hein, toujours sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Et on va aborder un nouveau reportage, un reportage sur les compteurs Linky. Alors c'est un premier reportage, hein, parce qu'on peut raisonnablement penser qu'on va souvent y revenir. Alors, Linky, qu'est-ce que c'est ? Alors il faut savoir que Linky, ce sont des compteurs, hein, des compteurs qui sont mis en place par... la société Enedis. Alors Enedis, c'est anciennement ERDF. Donc il y a une nébuleuse autour de l'énergie électricité. Donc ERDF est devenu Enedis. Et depuis le 1er décembre 2015 et jusqu'à la fin de l'année 2021, il est prévu que toute la France soit équipée de compteurs Linky. Autrement dit, tous les particuliers, les entreprises, chacun aura son compteur Linky en remplacement de son compteur, son bon vieux compteur. Soit le vieux compteur noir, soit le bleu, soit le compteur numérique. Donc Linky, c'est un nouveau type de compteur. Il transmet tous les relevés sans qu'il y ait aucune intervention humaine. Autrement dit, il n'y aura plus le releveur qui va venir chez vous effectuer les relevés de compteur. Hein. Tout ça sera transmis automatiquement, sans intervention humaine. Le compteur Linky, ben, il communique directement avec les serveurs de Enedis, avec des concentrateurs numériques et radio dans chaque quartier, enfin radio plus exactement via le réseau des téléphones portables, hein, ce qu'on appelle le réseau GSM. Donc il y a une communication par onde GSM directement au serveur de Enedis. Et au-delà de la transmission des relevés de compteurs, Linky fait beaucoup plus de choses que ça, hein, notamment Enedis transmet en temps réel, autrement dit au fur et à mesure de la consommation des gens, il transmet en temps réel toutes vos données personnelles de consommation. Donc c'est ce qui notamment pose un certain nombre de problèmes, hein. Vous verrez, on va essayer d'étudier tout ça, il y a un certain nombre de problèmes très divers qui se posent. Alors cette question de la transmission en temps réel des données personnelles, autrement dit Enedis, hein, les serveurs d'Enedis vont savoir quand vous vous levez, quand vous recevez des gens, quand vous mettez en route la machine à laver, si vous partez en week-end. Enfin bref, il y a un certain nombre de données qui concernent votre profil qui vont contribuer à alimenter des bases de données. Hein, tout ça complète d'ailleurs d'autres types de profils. Hein. Aujourd'hui, on parle de plus en plus des profils Facebook. Hein. En fonction de ce que vous faites sur Facebook, ben on sait quels sont vos goûts, vos habitudes. C'est transmis dans des bases de données qui sont ensuite revendues à des marchands divers et variés qui vous proposent des offres. Et bien avec le Linky, avec le compteur entre guillemets intelligent, c'est exactement la même problématique. Hein. Il y a votre profil qui est tout à fait ciblé et ça permet à Enedis de revendre des données et puis à des marchands de vous faire des propositions qui sont tout à fait appropriés à votre profil. C'est ce qu'on appelle de l'optimisation. En fonction de qui vous êtes, on vous propose des offres qui ne seront pas les mêmes que celles de votre voisin, puisque vous n'avez pas le même type de profil. Et donc, avec le développement des compteurs Linky, c'est aussi le développement des objets connectés. Puisque l'idée, c'est qu'une fois que ces compteurs sont en place, eh bien, on va vous proposer d'acheter de plus en plus des choses comme des frigos connectés, hein, qui vont comprendre quand est-ce qu'il vous manque des produits. On va aussi vous proposer des stores avec des détecteurs de lumière et d'humidité. Donc tout ça étant transmis par le réseau électrique grâce au compteur Linky. On va vous proposer des fenêtres automatiques, des fermetures de portes également automatiques, enfin, etc., etc. Donc c'est le développement d'un monde d'objets connectés. C'est aussi ça qu'il y a derrière cette mise en place du compteur Linky. Au niveau consommation, Linky quasi obligatoirement augmente la consommation, puisque avec tous ces appareils connectés en plus, Donc l'idée, c'est de plus en plus de numérique, de plus en plus d'objets connectés. Et bien, la consommation, mécaniquement, elle va augmenter. Alors d'un point de vue sanitaire, Linky, c'est aussi de plus en plus de rayonnements électromagnétiques. Ce sont des antennes relais, des champs électromagnétiques. Et d'ailleurs, il y a des assurances, apparemment de très nombreuses assurances. Relisez votre contrat d'assurance. Des assurances qui refusent d'assurer les dégâts qui seraient liés à des champs électromagnétiques. Donc c'est aussi un point à prendre en compte. Alors au niveau financier, le déploiement de Linky, c'est 5 à 7 milliards d'euros qui seront reportés sur les factures des clients. Donc ça, c'est très clair. Le déploiement de Linky, ça va impacter directement les factures. En plus, Linky, ça va être le développement d'offres commerciales nombreuses. Autrement dit, aujourd'hui, c'est assez simple. On a un prix au kilowattheure. Eh bien, avec le développement de Linky, ce système va changer. Il va y avoir un nouvel mode de facturation avec des options extrêmement nombreuses. Et on va se retrouver avec une grille tarifaire, un petit peu comme à la SNCF, avec une difficulté à comprendre ce qu'on paye exactement. Si on prend un train à telle heure plutôt qu'à telle autre heure, le coût n'est pas le même. Eh bien, avec Linky, ça va être exactement le même type de facturation. Alors, d'un point de vue gaspillage, on peut se poser la question, pourquoi remplacer des compteurs qui fonctionnent? Ça, c'est le premier point. Nos compteurs actuels, nos vieux compteurs, quels qu'ils soient, le bleu, le noir ou le numérique, leur durée de vie, c'est de 50 à 60 ans. Le Linky, c'est de 15 à 20 ans. On va prendre une moyenne, on va dire que le compteur Linky, c'est 15 ans de durée de vie. En tout cas, c'est bien, bien moins que la durée de vie de nos compteurs actuels. Donc, ça veut dire, tous les 15-20 ans, renouvellement du parc de compteurs Linky, etc., etc., etc. Une réunion d'information dans une salle comble, vraiment remplie, à Fresnoy-en-Goële. Donc un petit peu entre Méricourt et Arras, pour dire les choses rapidement, du côté d'Arleux, de Hopi. Une salle vraiment pleine, ça montrait vraiment l'interrogation des habitantes et des habitants devant ce qu'on leur impose comme étant le compteur intelligent Linky. Alors donc Micro-Rebelle participait à cette soirée, et je vous propose d'abord d'écouter, juste avant le début de la réunion, les opinions de trois participantes et participants. Bien, bonjour Christy, je voulais commencer par vous poser une première question. Donc on est tout juste avant le début de la conférence. C'est qu'est-ce qui vous, personnellement, vous a amené à participer, à assister à cette conférence?
C'est suite à la conférence que moi j'ai eu, comment dirais-je...
Vous avez déjà assisté à cette conférence, alors c'était où?
C'était sur Arras, au mois de mai. Et donc, à l'issue de ça, j'ai donc décidé de ne pas mettre le Linky.
Très bien. Alors, quels sont les arguments qui vous ont convaincu?
Trop de choses contradictoires.
Oui, par exemple.
Trop de choses contradictoires, trop de... Comment je vais vous expliquer ça? C'est le procédé qui ne me plaît pas, en fait, de chez Enedis, en fait.
D'accord, vous pouvez en dire plus ou...
J'appelle ça du forcing.
Très bien, et eh bien...
C'est du forcing et pas très délicat, en fait.
Et vous personnellement là, actuellement, dans votre situation personnelle?
J'ai bloqué, actuellement, j'ai bloqué mon compteur avec un camion.
Le compteur est à l'extérieur ou à l'intérieur?
Il est à l'extérieur.
Donc, vous l'avez rendu inaccessible, en quelque sorte?
Inaccessible.
Et parmi les gens...
J'ai envoyé une lettre commandée à Enedis un mois auparavant. J'ai envoyé un double à monsieur le maire pour expliquer mon...
Mécontentement.
Mécontentement, comme vous dites. Et ensuite, suite à ça, j'ai pas été... comment je vais vous expliquer ça? Dans ma lettre, j'ai dit que je n'étais pas hostile à ce que l'on mette le Linky, mais que je voulais prendre du recul et qu'ils reviennent me voir en 2021, c'est-à-dire à la fin de le dépose, en fait. Étant donné que comme ils sont encore dans la région jusqu'en 2021, j'ai donc regardé sur Internet les pauses sur Miricourt, sur Hénin, dans les environs. Et je me suis fiée à ce... Voilà.
Très bien, bah, ça me semble tout à fait intéressant. Et une toute dernière question. Dans votre entourage, là où vous habitez, les gens, quelle est la température ?
La température, c'est que... Bah, beaucoup... je pense que je suis la seule à ne pas l'obtenir, à l'avoir eu, quoi. Et ensuite, lorsque j'ai voulu mettre un flyer pour expliquer la réunion de ce soir, bah justement, il y a eu un problème. La voisine, ça tout a disjoncté. Et là, ce matin, mon mari, idem, il a été sur Auclaincourt et suite à l'Ulinki, le monsieur a des problèmes avec son congélateur. Et tout a fondu, donc maintenant, je ne sais pas s'il va se retourner vers l'assurance, je ne sais pas. Pour vous dire que quand même, il y a quand même pas mal de soucis.
Oui,
on découpe pas mal d'articles, et en découpant pas mal d'articles, bah, on s'aperçoit que quand même que ce n'est pas très clair. Entre guillemets.
Eh bien, merci Christy, et puis bonne conférence ce soir alors. Eh bien maintenant, je suis avec Sylvie, donc on est toujours 2-3 minutes avant le début de la conférence sur les compteurs Linky. Alors Sylvie, bonjour, j'avais envie de vous demander, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce soir, vous avez choisi d'être venue, de participer à cette conférence ?
Eh bien, on est venu assister à cette conférence parce que, à la base, dès l'instant qu'on a entendu parler du compteur Linky, on a toujours été plus ou moins contre. Le fait qu'on nous impose un compteur sans d'explication, sans nous apporter la moindre explication en fait. Et quand on entend certaines personnes qui ont eu des soucis avec, on a refusé en fait. Donc je viens pour conforter mon opinion.
Très bien. Alors quand vous dites que vous avez refusé, ça veut dire que vous avez déjà fait des démarches de refus ou bien vous vous apprêtez à en faire ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous allez faire ?
Non, les démarches ont déjà été effectuées. J'ai téléphoné chez Enedis. J'avoue être tombée sur un conseiller très gentil, contrairement à d'autres personnes, et qui a été à mon écoute. Et puis, il a pas tiqué du tout. Il m'a envoyé des documents sur le compteur Linky. Et puis, j'ai téléphoné à la SATCOM, qui s'occupe de notre village. Et pareil, ils ont tenu compte de mon avis. Et moi, je n'ai pas fait de lettre recommandée. C'était que verbal, oral.
Alors, justement, pour revenir sur les questions de fond, vous dites vous êtes plutôt contre le compteur. Vos raisons, d'une manière générale, quelles sont-elles ?
Les ondes, ensuite on nous parle beaucoup du kilowattheure, qu'on n'aurait pas assez de puissance en fait. Donc, et puis le fait surtout qu'on nous impose quelque chose sans apporter d'explications, alors que nous notamment notre compteur a été changé il y a 2 ans, donc même économiquement je vois pas trop l'intérêt. Ça me fait un peu penser au détecteur de fumée en fait qu'on nous a imposé l'année dernière, et on part toujours du principe que c'est quelque chose qui est utile à une personne et que nous on nous impose toujours des choses, donc au bout d'un moment on dit stop, ras le bol quoi, on est là.
Oui, d'ailleurs par rapport à ce que vous dites, il paraît que un compteur Linky est censé durer 15 ans alors que les compteurs traditionnels qu'on a jusqu'à présent sont censés durer 60 ans, donc effectivement.
Bah oui, en plus, donc voilà. Donc on se demande où est l'intérêt, et lorsqu'il parle de relever le compteur à part distance, de toute façon nous ça ne nous concerne pas puisqu'on appelle. C'est nous qui appelons Engie pour communiquer nos relevés de compteur. Donc pour nous personnellement ça ne change rien en plus. Donc voilà.
Très bien, ben merci Sylvie. Peut-être une dernière question. Alors dans votre village, vous avez pris cette position, mais vos voisins, vos amis, les gens que vous rencontrez, quelle est la température ?
Bah, on en parle, on donne notre avis, et puis les gens à la base ne savaient pas qu'ils pouvaient faire opposition, donc pas mal de personnes se sont fait avoir, et puis les personnes hésitantes malheureusement sont tombées dans le panneau, ont peur, parce qu'on explique aussi que si on ne change pas le compteur, dans quelques années ce sera obligatoire, à nos frais, tout ça, donc il y a une finance qui est derrière, et puis les gens... ça les inquiète un peu, donc finalement ils changent quand même. Mais nous on fait de la résistance.
Très bien, ben merci Sylvie la Résistante et puis bonne conférence ce soir. Alors toujours avant la conférence organisée par le collectif Linky 62, je suis maintenant avec Géry. Alors Géry, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui fait que ce soir vous êtes venu à cette conférence ?
Mais déjà pour m'informer, premièrement. Deuxièmement, parce que j'ai fait des courriers à Enedis, j'ai eu des réponses qui ne me satisfont pas. Et je n'aime pas être imposé comme ça sur quelque chose que je ne veux pas. Voilà, tout simplement.
Alors, donc ça, c'est le fait que c'est la procédure, autrement dit Enedis qui impose les changements de compteur. Vous avez déjà fait des démarches ou alors vous vous apprêtez à en faire ?
Non, j'ai fait un recommandé à Courbevoie. J'ai fait un courrier à la direction d'Enedis à Courbevoie et j'ai signalé que je n'étais pas partant pour mettre leur compteur Linky. Là-dessus, j'ai eu un appel téléphonique pour me donner rendez-vous, j'ai refusé. Je leur ai dit que j'avais envoyé un courrier recommandé. J'ai reçu un courrier le 21 juin, là, suite à mon courrier, qui me dit que je suis dans l'obligation de le faire. Voilà, c'est simple. On ne peut pas déroger à la loi. Moi, je veux bien, mais je veux l'avoir. J'ai signé un contrat au départ quand je suis arrivé dans mon logement. Maintenant, j'attends de voir. On ne peut pas me changer quelque chose qui n'est pas compris dans le contrat.
Eh bien, Géry, merci pour toutes ces informations et puis bonne réunion. On va un peu revenir sur cette réunion à Fresnon-en-Goële, une réunion très dynamique, très intéressante, avec une belle participation des habitantes et des habitants de Fresnon-en-Goële et des villages alentours. Donc, cette réunion était animée par le collectif Info Linky 62. C'est un collectif qui est très bien documenté, hein. Il intervient sur la question des compteurs Linky depuis maintenant un petit moment. Et donc à l'occasion de cette conférence, hein, de cette réunion, le collectif Info Linky 62 a présenté des références très précises, hein, sur les aspects scientifiques, sanitaires, juridiques, financiers, ainsi que sur la méthode musclée, hein, il faut insister là-dessus, sur la méthode musclée qu'adopte Enedis pour imposer autoritairement la pose des compteurs. Hein. Il y a vraiment des exemples qui nous ont été relatés sur des méthodes de voyous, hein. On peut pas dire autrement, des méthodes de voyous pour que les gens acceptent la pose du compteur Linky. Alors donc c'est une conférence qui s'appuyait sur de très nombreux témoignages d'habitants et d'habitantes, hein. C'est vraiment eu beaucoup de vécu. Et finalement ce qu'on retient de la conférence, hein, concernant le compteur Linky et la politique d'Enedis, c'est arnaque, danger sanitaire, gaspillage, espionnage. Et le site de l'association Info Linky 62, il est tout à fait intéressant à consulter. C'est un site qui a été fait par des militants, des bénévoles, hein, donc c'est pas du tout un site professionnel, mais il foisonne d'informations. Donc je vous en donne l'adresse, hein, c'est collectif-linky, donc Linky c'est L-I-N-K-Y, collectif-linky-62.e-linky. monsite.com. Voilà, donc de très nombreuses informations à glaner sur le site du collectif Info Linky 62. Alors typiquement, il faut savoir, hein, ça nous a été clairement exposé lors de cette réunion à Fresnon-en-Goële, l'Allemagne a refusé la généralisation des compteurs Linky, hein, de ce type de compteur. Elle a refusé la généralisation de ce type de compteur. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas dans l'intérêt du consommateur allemand. Donc ça, c'est un exemple significatif aussi de choses qui devraient peut-être nous concerner. En général, les hommes politiques aiment bien nous rappeler qu'en Allemagne, c'est mieux. Ben, là, on peut dire que l'Allemagne a, c'est pas sur un plan économique, mais c'est sur un plan de l'intérêt des consommateurs, a refusé ce type de compteur. Les assurances, on l'a dit tout à l'heure, ne prennent pas en compte les risques liés à la pose du compteur. La Ligue des droits de l'homme, le CNRS, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le CIRC, CIRC, la CRIRAD, notamment, ne sont pas pour la généralisation de ces compteurs. Alors, vous parlez de Enedis, ben, l'illégalité et l'arrogance de Enedis va jusqu'à poser les compteurs en extérieur, en l'absence du propriétaire et malgré son refus. Donc, il y a vraiment une politique du forcing très violente, très significative de la part de Enedis. Et la conférence à laquelle donc on a assisté, elle a montré qu'on peut refuser la pose de ces compteurs en utilisant des règles précises. Juste après la conférence, Micro Rebelle a échangé avec un participant qui était présent, alors que par ignorance, il avait accepté la pose du Linky chez lui. On va l'écouter, on écoute Guy, juste sur cette question-là. Bien, maintenant je suis avec Guy, donc la réunion est terminée, la conférence est terminée. Alors Guy, Qu'est-ce que vous avez retenu de cette conférence-réunion ?
Tout d'abord, ce que j'ai dit au départ, c'est que moi, mon compteur est installé. Donc je suis venu chercher des informations, malheureusement pour moi il est un peu tard quoi, mais ça fait rien. Beaucoup d'informations m'ont été données par rapport à tout ce qui touche la sécurité déjà, tout ce qui touche l'électromagnétisme et tout. Donc ça va me permettre, à travers tous les propos qui ont été tenus et les réponses que j'ai eues, quoi, ça va me permettre aussi de diffuser autour de moi, hein, autour de mon entourage, toutes ces informations aux personnes qui n'ont pas encore le Linky, qui n'ont pas encore fait faire l'installation, et leur donner les moyens qui m'ont été donnés ici dans cette réunion pour les avertir qu'ils ont aussi la possibilité de refuser et comment faire aussi. Donc diffuser l'information autour de moi, quoi.
Alors justement, pour revenir sur l'installation du compteur chez vous, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est parce que vous n'étiez pas informé ? Vous avez... C'est quoi ? C'est un manque de connaissances et...
Non, non, pas du tout un manque de connaissances. C'est simplement... D'ailleurs, la personne qui est venue me l'installer, je l'ai tout de suite mis au courant. Je lui ai dit je ne suis pas d'accord pour ce compteur. Mais comme j'ai dit dans la réunion, vous n'y pouvez rien. C'est un ouvrier lambda, donc je ne vais pas l'agresser. Je ne vais pas lui dire tu n'as pas à venir changer mon compteur. Je ne suis pas intéressé. J'aurais pu le faire, hein, mais je n'ai pas voulu l'embêter, quoi. Tout simplement parce que, individuellement... Je n'ai pas été informé d'ailleurs qu'il existait un collectif, déjà au départ. Hein. J'ai été informé, mais un peu tard, malheureusement. Et je ne voulais pas non plus embêter ce monsieur. Et je veux dire, dans un petit village de quelques habitants, hein, j'habite à Oupi, il est très très difficile d'avoir un collectif. D'ailleurs, on en a parlé lors de la réunion, hein, un collectif au niveau de la commune, c'est-à-dire des personnes qui veulent bien s'engager aussi pour faire un petit collectif, pour interdire la mise en place de ces compteurs. Donc voilà, l'information m'est venue trop tard, et individuellement, on est dans l'impossibilité d'aller à l'encontre, on l'a bien vu hein, dans la réunion, où on a parlé des maires, j'ai même dit qu'il y a certains maires qui s'engageaient, parce que politiquement, ils sont comme ça, il y a des maires qui se battent pour leur village, au niveau de la précaution, de sécurité, au niveau de leurs concitoyens et tout ça, ben, ils prennent des précautions, ils ont raison. Après, chacun fait ce qu'il veut, on l'a bien dit dans la réunion. Et moi, je suis persuadé que dans mon village, le maire, il m'aurait répondu comme ce maire qui a répondu au formateur, là, que lui, bon, ben, il ne restait plus grand-chose à faire. De toute manière, c'était pas son problème, c'est pas ça qu'il allait le faire mourir, quoi. Donc voilà, on est quand même dans des petits villages un peu isolés, et je trouve qu'on est aussi... pris en otage. Hein. Parce que moi, dans mon petit village, je fais partie de ceux qui sont considérés un peu comme ceux qui sont toujours en train de dire les choses contraires à pour l'évolution et tout ça. Et donc on passe un peu pour des révolutionnaires, alors qu'on n'en est pas du tout, en fait. On veut avertir les gens, on veut les préserver, on veut leur dire attention, il y a ça, ça et ça. Mais dès que vous dites quelque chose, bah, tout de suite vous êtes, vous êtes ciblé comme quelqu'un qui va toujours à l'encontre de l'évolution, alors que c'est pas du tout ça, quoi, en fait.
Hein? Ouais, finalement, si être révolutionnaire, c'est vouloir changer une situation qui est mauvaise, c'est quand même intéressant.
Oui, oui, mais on est considéré comme ça dans les villages, je peux vous le garantir, vous pouvez venir dans mon village, c'est comme ça. Il y a des personnes qui bah, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit de parole, c'est quand ils parlent, ça part pas, quoi, parce qu'ils sont considérés comme ça, comme tel. Et c'est incroyable, mais c'est comme ça.
Et donc là, alors que le compteur Linky est posé chez vous, vous avez quand même l'intention d'aller voir des voisins, des...
Ah ouais, tout à fait, ouais. J'ai déjà commencé. Hein. Quand on est venu me voir, la personne qui est venue m'avertir de la réunion, je la connais très bien. Hein. Et donc je lui ai arrivé, j'ai dit ouais, ok, dommage que t'es pas venu avant, quoi. Et le lendemain, j'ai rencontré déjà mes voisins, quoi. Pour leur dire que j'ai fait monter le compteur parce que j'étais pas informé et je savais pas qu'il y avait cette réunion, mais je les ai quand même avertis. Mais on sent très bien qu'ils se sentent moins concernés, quoi. C'est dommage que je n'ai pas été averti, moi, je vous le dis tout de suite. Hein. Parce que le gars, il l'aurait jamais monté. Hein. Mais voilà, il est trop tard, quoi. C'est tout, c'est fait. Quoi.
Et donc c'est important de se regrouper collectivement pour s'organiser ?
Oui. Moi, dans ma carrière professionnelle, tout ce que j'ai fait, ça a toujours été collectivement. Hein. On sait très bien que seul, on n'arrive pas à grand-chose. Quoi. Mais actuellement, encore une fois, je le dis, dans un petit village, collectivement, c'est très, très, très difficile. On l'a bien vu, hein, il le disait, pour prétendre à une petite manifestation, entre parenthèses, c'est un grand mot, auprès du maire du village, avec quelques citoyens lambda du village, hyper difficile, hyper compliqué, quoi. On est vraiment pris en otage dans toutes ces histoires d'améliorer, soi-disant, notre vie au quotidien et tout. Donc,
le progrès.
Ouais, voilà. Donc, franchement, on est vraiment pris en otage à travers ça. Et je parle de pris en otage parce que je sais de quoi je parle.
Alors, revenons au refus des compteurs Linky. Qu'est-ce qu'on peut faire pour refuser la mise en place de ces compteurs Linky? Alors, il y a différents cas de figure, hein, selon notamment que l'emplacement du compteur, il est à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Alors, bon, typiquement, c'est beaucoup plus facile de refuser quand le compteur, il est à l'intérieur. Mais dans tous les cas, hein, et ce que vous soyez propriétaire ou locataire, dans tous les cas, il y a deux choses à faire immédiatement, enfin, en tout cas, tout au moins, dès que vous êtes averti de l'arrivée possible des compteurs Linky chez vous. Premièrement, une lettre recommandée à Enedis, donc une lettre de refus qui indique que vous refusez que le compteur Linky soit installé chez vous. Une lettre recommandée avec accusé de réception. Il y a des modèles sur le site du collectif Info Linky 62, premièrement. Et deuxièmement, une lettre au maire. Donc il faut savoir que ce sont les mairies qui sont propriétaires des compteurs. Les compteurs que vous avez actuellement chez vous, hein, et les compteurs qui vont être installés, c'est la mairie qui en est propriétaire. Donc, une lettre au maire pour informer de votre refus individuel. Autrement dit, vous refusez, à titre personnel, le changement de compteur. Vous refusez la mise en place du Linky chez vous. Et vous informez le maire de votre décision et vous lui demandez d'appuyer les usagers qui refusent. Par exemple, dans le bassin minier, on peut évoquer deux municipalités, la ville de Billy-Montigny et la ville de Rouvroy, qui ont refusé d'appuyer la mise en place des compteurs Linky dans leur commune. Voilà, donc on souhaite effectivement qu'il y ait d'autres municipalités qui se prononcent dans le même sens, autrement dit, qui est le vrai développement d'un refus collectif des citoyens, des citoyennes et des élus de la mise en place de ces compteurs. Alors, pour celles et ceux qui ont le compteur à l'extérieur, donc le compteur n'est pas notre propriété, hein, on l'a dit, le compteur appartient aux municipalités. Par contre, le boîtier qui entoure le compteur, hein, le boîtier dans lequel est logé le compteur, c'est votre propriété individuelle. En tant que propriétaire ou en tant que locataire, vous êtes responsable de ce boîtier. Donc, l'idée, c'est de verrouiller ce boîtier avec un cadenas, avec une chaîne, enfin, de manière tout à fait évidente que vous ne voulez pas que personne n'y ait accès. C'est le vôtre, vous avez la clé, vous le barricadez en quelque sorte. Vous mettez dessus une affichette du type « touche pas à mon compteur ». L'idée, c'est que Enedis et ses sous-traitants qui viennent installer les compteurs Linky, eh bien, quand ils commenceront à toucher au boîtier, ils sont à l'évidence dans une situation d'effraction. Donc c'est vraiment ce qui est visé dans le fait de verrouiller votre boîtier extérieur. Donc ça, ce sont des mesures individuelles, hein, les lettres commandées, le fait de barricader le compteur. En plus de ça, et ça, là, on y a insisté pendant cette conférence, hein, surtout, c'est pas toujours facile, mais dans la mesure du possible, ne pas rester isolé. Notamment se regrouper face au mastodonte qu'est Enedis et face au laxisme des pouvoirs publics qui laissent faire, qui encourage un petit peu la mise en place de ces compteurs, hein, pour un tas de raisons, hein, financières, fichage, enfin, etc., etc. Et donc, quand on est groupé, ben, on organise des réunions publiques. On organise des réunions publiques par ville, par village, de façon à se grouper, être plus fort. Et aujourd'hui, ça commence à se passer en France, hein. On est au tout début de la mise en place des compteurs Linky, mais la vague de refus ne cesse d'enfler. Il y a aujourd'hui à peu près 700 communes qui ont été concernées par les compteurs Linky, donc on est vraiment au tout début, hein, 700 communes. Et bien sur ces 700 communes, 250 municipalités ont délibéré contre l'implantation dans leur commune. Donc c'est pas un petit refus, c'est une vague qui est extrêmement importante. Alors le calendrier des installations, il est disponible, hein. Je vous donne quelques informations sur le bassin minier. De juillet 2017 à décembre 2018, ce sont les communes de Bully, Grenay, Angres et Mazingarbe. De janvier à juin 2018, Lens, Losangouel et le Dilouette. De juillet à décembre 2018, Liévin et Avion. De janvier à juin 2019, tout le secteur rural d'Acheville, Billy-Montigny et Méricourt. De juillet à décembre 2020, Vendin-le-Vieil, Loison, Vingles. De janvier à juin 2021, Arnay-Fouquier. Donc vous voyez, il y a toute une installation progressive qui est prévue. Et donc, à l'opposé de cette installation, il faut que nous, on s'organise, on se rassemble avec le collectif départemental Info Linky 62, bien sûr, et aussi par collectifs locaux, ville par ville. C'est une belle bagarre qui s'annonce. Hein. Enedis, c'est un mastodonte, on l'a dit, qui est avide de pouvoir financier, qui vont intéresser aussi d'autres vendeurs, d'autres marchands. Mais nous sommes les plus nombreux. On ne veut pas d'une vie de fichage, d'assistanat par les ordinateurs, d'une vie dans les champs électromagnétiques, une vie où les objets connectés pensent pour nous, une vie de gaspillage environnemental. Avec Microrebel, on aura l'occasion d'en reparler amplement dans des émissions prochaines, à notre rentrée de septembre prochain, après l'été. Eh bien, on va se quitter maintenant, après cette belle bagarre qui s'annonce. On va se quitter pour un petit moment. On se reverra à la rentrée. Nous vous souhaitons un bel été à toutes et à tous. N'hésitez pas à nous contacter par Internet. contact@micro-rebelle.fr. N'hésitez pas à venir à notre Assemblée Générale, ce jeudi 6 juillet à 18h, dans nos locaux, à Liévin. Puis si vous souhaitez avoir des informations de Microrebelle, par courrier électronique, on a une petite liste d'informations. On envoie un ou deux courriels par mois, donc vous ne serez pas spammé, vous aurez vraiment une information mesurée. Ben, vous nous le demandez, vous écrivez à contact@micro-rebelle.fr et on vous mettra sur notre liste de diffusion. Voilà, et puis on remercie évidemment nos amis de Radio PFM d'accueillir un petit peu nos émissions chaque semaine. À très bientôt donc. Bel été à toutes et à tous.